Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre émission « Cette semaine en Afrique ». « Cette semaine en Afrique », c'est votre émission hebdomadaire qui fait le décryptage de l'actualité de la semaine en Afrique. À travers des récits, des décryptages, des analyses, nous vous parlons de tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité du continent. Aujourd'hui, nous avons comme thématique Dangote inquiet face au pétrole russe. Quelle protection pour les industries minières en Afrique? À travers ce thème, nous parlerons de l'arrivée massive de produits pétroliers sur le marché africain et leurs impacts sur les industries pétrolières du continent. Mais avant, notre première thématique nous amène au Soudan où, entre choléra et guerre, une crise oubliée fait des dizaines de milliers de morts sur le continent. Sans plus tarder, suivons ensemble ce récit pour nous informer davantage.
Depuis juillet 2024, le Soudan fait face à une épidémie de choléra ayant causé 2302 décès et plus de 91 000 cas dans 17 États. La situation est particulièrement critique à Taouila, Darfour Nord, et Bilay, Darfour Sud. À cela s'ajoutent d'autres maladies saisonnières comme le paludisme et la dengue, aggravant une crise sanitaire déjà dramatique. Cette urgence sanitaire survient dans un contexte de guerre civile. Depuis avril 2023, le pays est déchiré par un conflit entre les forces armées soudanaises FAS et les forces de soutien rapide FSR. Cette guerre est le résultat de luttes de pouvoir entre le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des FAS, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamed T, chef des FSR. Tous deux avaient auparavant coopéré pour renverser le gouvernement de transition en 2021, mais leurs ambitions divergentes ont rapidement plongé le pays dans le chaos. Les combats ont tué des dizaines de milliers de civils, déplacé plus de 8 millions de personnes, détruit des infrastructures et conduit à la fermeture de 250 hôpitaux. Le Darfour est particulièrement touché avec des accusations de crimes contre l'humanité, notamment des campagnes de nettoyage ethnique. Malgré plusieurs cessations de feu négociées par l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD, les hostilités se poursuivent. Des pourparlers ont été organisés à Djida et Addis Abeba sans aboutir à une solution durable. L'aide humanitaire reste limitée, entravée par les deux camps.
C'est le commentaire de Habibatou Diop. Entre choléra et guerre, une crise oubliée au Soudan. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité nos fidèles invités, M. Monoko Touali. Il est journaliste indépendant, expert en communication et directeur de la télévision Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Monoko.
Bonsoir et encore une fois de plus, merci de toujours m'associer à votre émission et ça me permet donc de donner mon point de vue sur l'actualité qui se déroule sur le continent. Et j'espère aussi que nous allons également être à la hauteur et satisfaire également la présence des fidèles téléspectateurs pour qu'eux aussi ils puissent dire que voilà, ils ne sont pas assis inutilement. J'espère qu'on soit à notre thème. Mais avant cela, permettez que je dise bonsoir à mon co-débatteur et ce grand monsieur que j'ai découvert la dernière fois qui a prouvé qu'il pouvait aussi débattre. Et là, on en est fier.
Merci, voilà. Merci. Alors, ce grand monsieur, il s'appelle Mamadou Drissa Tangara. Il est juriste spécialisé en droit international humanitaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un peu des thématiques qui vont dans son domaine. Alors, monsieur Tangara,
oui.
Bonjour, bonsoir d'abord.
Bonsoir, monsieur Tangara.
Alors, vous venez tout à l'heure de suivre le reportage. Au Soudan, on parle de 2302 décès et plus de 91 000 cas de choléra, 250 hôpitaux fermés. Ce choléra est-il une conséquence directe du conflit armé au cours dans ce pays?
Oui, merci, monsieur Tangara, pour la question. Justement, ce choléra est bien une conséquence directe de cette crise sécuritaire, de cette guerre qui est en cours actuellement au Soudan, entre deux hommes, Abdourahmane et M. Emeti. Pourquoi? Parce que dans la guerre, les militaires et la force milice paramilitaire FSR se sont livrés à des tirs et sont partis jusqu'à bombarder les installations d'eau, les installations électriques, c'est-à-dire toutes les ressources vitales pour la population. Donc, déjà, il n'y a pas eau propre, il n'y a pas eau potable pour la population. La population soudanaise, maintenant, s'abreuve de l'eau des rivières, l'eau infectieuse, l'eau contaminée, pour boire de l'eau. Donc, l'eau est déjà contaminée. Si vous continuez de boire cela, normalement, vous serez contaminé. Donc, du choléra. Mais aussi, il faut reconnaître que le choléra, c'est une maladie saisonnière chez eux. C'est courant, ça se fait chaque fois. Mais dans la guerre, ça s'est beaucoup plus propagé de façon grave. Et puis, la maladie a pris beaucoup de grande ampleur parce qu'il n'y a pas de ressources vraiment pour y remédier pour le traitement. D'ailleurs, même pour traiter la maladie, il faut de l'eau pour hydrater les malades, les patients. Donc, il n'y en a pas. Donc, en réalité, si aujourd'hui, il y a tant de morts, tant de cas de contamination grave du choléra, c'est parce que nous sommes en guerre. Ils sont en guerre au Soudan du Sud. Donc, on peut dire que ça, la guerre est vraiment la cause de cette épidémie.
De cette épidémie. Et M. Monoko, il vient d'en parler tout à l'heure. Au Soudan également, on parle de morts, on parle de contaminés de choléra, on parle aussi des réfugiés. Que vous inspire tous ces faits dans ce pays en Afrique?
Comme je le disais la dernière fois, c'est toujours douloureux de savoir qu'en Afrique, on meurt. De savoir qu'en Afrique, on s'entretue. Et de savoir qu'en Afrique, on s'entredéchire. Alors que on devrait être en harmonie sur notre continent, vivre ensemble, se comprendre, s'attendre. Malheureusement, les calculs des enjeux politiques, des enjeux visant la prise du pouvoir, a occasionné des conflits qui, malheureusement, impactent tout le pays, négativement d'ailleurs. Dans la description de ce reportage, on parle des hôpitaux qui pratiquement n'existaient plus, puisque...
Les 150 hôpitaux fermés.
Voilà, fermés, pour ne pas dire détruits. Le frère le disait tantôt, l'eau déjà contaminée, polluée, les gens étaient contraints, et du moins sont contraints, d'en consommer.
Juste.
Alors que cette eau n'est pas appropriée. Elle va donc entraîner les maladies, parmi lesquelles il y a celle dont vous parlez.
Le choléra.
Choléra. Et donc, ça veut dire, à mon sens, hein, que les Africains, nous devons encore réfléchir davantage et comprendre que, quelle que soit la nature d'une situation, il faut régler la situation et éviter que ça débouche des conflits. Sur la belligérance, sur des guerres qu'on ne peut pas maîtriser. Au départ, la guerre peut avoir lieu. Chacun peut dire non, je souhaiterais renverser X ou W. Mais plus ça commence, personne ne peut vous définir quand est-ce que ça va se terminer.
Alors, et que doivent être les priorités du gouvernement face à cette double crise? Il y a la choléra d'un côté, il y a la guerre de l'autre côté.
Oui, si la maladie est enregistrée comme étant la conséquence du conflit, parce que s'il n'y avait pas de conflit, j'imagine que même si la maladie, comme le disait tantôt mon co-débatteur, est périodique, on ne devrait pas donc faire cas de la destruction des centres de santé, des structures sanitaires, qui devraient donc prendre soin ou s'occuper ou prendre en charge les malades de la maladie en question. L'autre côté, vous parlez de belligérance. Mais les autorités doivent faire quoi? Dans un premier temps, à hausser le niveau de réflexion pour faire taire les canons, pour faire taire les malentendus, pour penser d'abord les plaies existantes au sens de résolution de la situation. Tant qu'elle n'a pas été réglée, les meurtrissures ne vont pas donc aider à ce que la paix revienne tout de suite. Parce que quand il y a la belligérance, et c'est là qu'il faut éviter les conflits, c'est là qu'il faut éviter la guerre, c'est là qu'il faut éviter les malentendus. Ceux qui ont vu leurs parents mourir, ils auront l'idée de vengeance. Ceux qui ont vu leur village brûlé, décimé, auront l'idée de vengeance. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça impacte au-delà de la dimension politique, ça impacte négativement ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et quand la cohésion sociale est menacée, le pays reste dans une logique de déséquilibre.
D'accord.
Alors, que doivent faire les autorités? Il faut donc activer tous les mécanismes qui peuvent aider à ce que ce conflit, malheureusement, qui est dans ce pays africain, puisse trouver une issue dans le sens de l'atténuer dans un premier temps et arriver au règlement pacifique et définitif.
D'accord. Justement, sur ce point, M. Tangara, vous informez sur le domaine. Et quelle est la réaction de la communauté internationale face à cette crise au Soudan? On a l'impression que la crise est oubliée, mais peut-être il y a des efforts de part et d'autre de la communauté.
Oui, sans mentir, la communauté internationale fait de son mieux, surtout le bureau international des Nations Unies dans le domaine humanitaire fait de son mieux. Mais le problème est que dans la guerre, dans les tirs entre les deux parties, les agents qui doivent s'occuper des civils ont vraiment des tâches beaucoup plus difficiles jusqu'à ce qu'eux-mêmes sont victimes de balles irréelles. C'est ça le problème. Et puis, il n'y a pas longtemps, un convoi humanitaire a été attaqué, provoquant la mort de 5 personnes. Vous voyez le problème. Et aussi, une ONG également a perdu 9 personnes de leurs agents sur le terrain. Donc, ce n'est pas facile. Dans la guerre, ce n'est pas facile même pour les agents humanitaires. Mais je sais, mais selon mes informations, tout le monde est en train de faire de son mieux. Les Nations Unies et beaucoup d'autres organisations non gouvernementales sont en train de faire de leur mieux. Mais le problème, en réalité, incombe aux deux parties belligérantes.
D'accord. Justement, vous dites que la situation est vraiment compliquée en ce moment.
Oui.
Et qu'est-ce qui complique la paix dans ce pays?
Bon, ce qui complique, en réalité, vous savez, c'est l'ego des deux parties. Même quand les Nations Unies, pas que les Nations Unies seulement, l'Arabie Saoudite et l'Égypte avaient demandé la trêve, de cesser les feux temporaires, ça n'a été respecté par aucune des parties. Donc, vous voyez le problème. Donc, si trêve n'est jamais respectée pour qu'ils puissent partir au dialogue, à la négociation, donc c'est pas facile. Donc, les médiateurs, ceux qui sont venus pour qu'ils puissent avoir de la paix entre les deux parties, viennent pour parler les deux côtés. Ils disent oui, nous attendons. Mais après, ils partent, ils continuent avec le conflit. Donc, ce n'est pas facile. Donc, en réalité, le problème, c'est ça. Le fait qu'on ne respecte jamais la trêve, les cessez-le-feu demandés par les médiateurs. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire.
D'accord, merci beaucoup M. Tangara. M. Toali et Tangara, je viens de parler du non-respect des accords de paix, du cessez-le-feu. Et selon vous, qu'est-ce qui complique davantage les efforts pour la paix au Soudan?
Oui, justement, c'est ce qui est important de souligner est que dans une logique de belligérance et qu'on a une approche qui aurait voulu qu'il y ait un cessez-le-feu, cela suppose que chaque partie doit aussi faire des concessions. Ce n'est pas que les médiateurs ne viennent pas pour vous dire « vous avez tort ou vous avez raison », mais vous montrent les risques, n'est-ce pas, de ce conflit et la gravité sur les populations et l'impact sur le pays dans son ensemble. Et de ce point de vue, il serait souhaitable de calmer le jeu pour mieux voir clair et aller. Dans ce cas précis, il faut que chaque partie accepte, n'est-ce pas, de faire un minimum de concessions qui va aider à ce que celui qui joue le rôle d'intermédiation, donc les intervenants qui veulent régler, qu'ils aient au moins d'un autre côté un principe d'accord de X pour aller avec du côté de Y, pour convaincre Y et puis faire maintenant la gestion pour que les deux reviennent sur une table de négociation. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Or, si chaque camp campe sur ses positions, il est très difficile à un médiateur, quelle que soit sa pertinence, de gérer un conflit. Parce que la gestion de conflit, ça nécessite une certaine diplomatie, et dans cette diplomatie, il faut que chacun accepte de laisser une part de ce qui lui est cher. Pour qu'il y ait cessé le feu, il faut que chaque partie accepte un minimum de concession. Or, sauf si quand ce minimum n'existe pas, vous ne pouvez rien. Maintenant, un autre point qui m'a paru pertinent que je devrais souligner ici, vous avez parlé de qu'est-ce qui rendait la chose difficile. Mais quand les deux parties tirent, les humanitaires vont faire quoi? quand toutes les parties tirent, les humanitaires sont même ciblés, ils deviennent même des victimes. Et là, ça complique la situation davantage négativement pour les populations qui sont en détresse et qui devraient bénéficier de l'assistance des humanitaires. Voilà.
D'accord. Et l'assistance humanitaire est troublée et par les attaques, les visants et la choléra. Est-ce que cette maladie pourrait se propager dans les autres pays frontaliers du Soudan?
Justement, c'est possible avec les déplacements, avec les déplacés, les déplacements de la population qui est en train de se passer. D'abord, les Soudanais.
En Égypte surtout,
ils sont en train de partir également au Tchad, d'autres aussi vers l'Éthiopie. Donc, vous voyez, donc, certains partent déjà contaminés avec la maladie. Donc, tant que le conflit dure et que la population n'a pas le souhait sur place et qu'il continue également de se déplacer, c'est normal que la propagation est possible dans d'autres pays. C'est vraiment possible. Tant que les autres pays sont ouverts et réceptionnent, font l'accueil de la population, donc il faut s'attendre à la propagation de l'épidémie un peu dans tous les pays voisins. C'est possible.
D'accord. Et nous sommes dans un continent où l'accès à la santé reste difficile, surtout dans les zones rurales, comme vous le connaissez. Mais selon vos informations, et M. Monoko, est-ce que l'Afrique est prête à faire face à ces genres d'épidémies?
Oui, vous savez, quand on parle d'épidémie, c'est que la maladie a dépassé un certain seuil.
Oui.
Voilà, parce que quand c'est déjà petit, hein, certains, quelques individus qui sont attaqués, on peut circonscrire. Mais quand on parle d'épidémie, c'est que ça a pris des proportions.
Oui.
Et là, quelle que soit la force d'un pays, il a l'obligation, même le devoir moral, de faire appel à d'autres qui peuvent lui porter secours. Que ce soit l'Union africaine, au niveau de l'Union africaine, il peut amener le message de détresse, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des Nations unies. Toujours est-il que quand il s'agit d'épidémie, Un seul État ne peut pas. Surtout un État en conflit, c'est-à-dire un pays en guerre, là, vous comprenez, quand c'est déjà en temps normal, quand c'est la situation est normale, on parle d'épidémie, ça étouffe.
Oui.
À plus forte raison, en période de crise.
Oui.
Et là, il faut aussi, ce n'est pas que cette maladie, parce qu'on parle d'épidémie, donc c'est elle qui est vue, mais ce n'est pas que la maladie. Les victimes qui se déplacent, ils dorment où?
Vraiment.
Ces victimes, elles dorment où? Elles mangent comment? Elles sont dans quel état d'esprit? Certains, dans la fuite, ont certainement abandonné leurs enfants, tous leurs biens, parce que quand ça chauffe, vous ne pouvez pas me dire qu'un éleveur va soulever tous ses moutons, mettre ça sur son cou et courir avec. Chacun doit d'abord courir et se sauver. Et donc, les conséquences sont nombreuses. Et ce qui est triste, négativement, c'est la maladie qui vient maintenant compliquer la situation, surtout qu'elle devient dans une logique d'épidémie. Et vous avez parlé tantôt de la propagation. Évidemment, les pays frontaliers ou les pays d'accueil, c'est tout à fait évident que la menace de contamination. Oui, effectivement, la menace soit là. Et là encore, ça risque même certains États quand. Je prends l'exemple de Covid. Certains disent non, la maladie, nous, on n'a pas les moyens de. Donc, on ferme nos frontières, restez là-bas. Vous avez vu.
Oui.
On espère que, dans ce cadre précis, les frontières ne peuvent pas être fermées. Les pays d'accueil, les pays voisins, et Tchad, dont vous avez parlé, l'Égypte et les autres, peuvent avoir cet esprit humanitaire là et les accueillir et aider à ce que, au niveau de la santé, les populations victimes puissent être prises en charge.
D'accord, merci beaucoup M. Monoko Toal. Nous nous rappelons et le nombre de décès est actuellement à 2302 cas et 91 000 autres cas sont actuellement dans le pays, ont été notifiés et 250 hôpitaux fermés. Alors M. Tangara, que fait l'Union africaine pour prévenir ce genre de crise?
Crise pour l'épidémie ou crise pour la guerre même qui est en cours?
Les deux.
Les deux. Bon, en réalité, moi... Bon, je n'ai pas vraiment assez beaucoup d'informations sur la réaction de l'Union africaine pour la résolution de cette crise. Peut-être elle a essayé, mais elle n'a pas pu pour en finir. Aussi, en réalité, vous savez, l'Union africaine en Afrique, franchement, doit voir ses modes d'action, quoi. L'Union africaine n'est jamais au rendez-vous des crises. C'est ça le problème. Moi, je la vois vraiment très absente dans cette crise au Soudan. Je ne la vois pas quand même. Peut-être elle a fait, elle a agi. Je ne sais pas, M. Tonoko pourra nous donner cette information. Mais moi, personnellement, moi je ne la vois pas. Mais elle devrait faire ce qu'elle peut. Elle devrait agir en réalité. Essayer d'abord, son cas même devrait être pour la médiation entre les deux parties, forces armées régulières et forces et ministres FSR. Donc aussi, pourquoi si elle n'a pas les moyens elle-même de venir de façon humanitaire, subvenir aux besoins de la population sur place, population soudanaise sur place, ou bien chercher à soigner ceux qui sont malades. Mais pourquoi elle peut lancer l'appel, elle peut demander d'autres partenaires internationaux qui peuvent venir au secours de la population soudanaise parce qu'elle est l'institution africaine la plus crédible qui sera écoutée à l'international. Donc elle a tous les moyens en réalité pour intervenir et essayer de trouver solution à ces problèmes.
D'accord. On espère qu'il y aura plus d'efforts de la part de l'Union africaine et qui est déjà impliquée dans plusieurs négociations de cessez-le-feu en compagnie de l'ONU et de l'IGAD. Aussi, les hostilités se poursuivent. Il y a également actuellement des pourparlers qui sont organisés à Jeddah et à Addis Abeba. On espère que ce soit pour le compte de l'Union africaine.
Merci.
Alors, M. Monoko, le cas du Soudan, est-ce que cela est-il un signal pour l'ensemble de l'Afrique? Parce que de part et d'autre, au Congo, au Mali et dans d'autres régions, il y a des crises. Et également, peut-être, il peut y avoir des menaces sanitaires également. Est-ce que cela est une sorte d'alarme pour toute l'Afrique?
Oui, la question d'alarme, c'est une très bonne question. Mais l'Afrique n'est pas sa première crise. Vous avez connu Sierra Leone,
oui.
Vous avez entendu parler du Libéria. Libéria qui a connu une guerre civile vraiment meurtrière. La Sierra Leone, c'est la même chose.
D'ailleurs, au Soudan, ce n'est pas une première fois qu'il y a une
crise. Voilà, justement. Crise. Donc, ce n'est pas la question d'alerte. Ce n'est pas en ce sens-là que je vois la question. C'est comment les Africains peuvent eux-mêmes, dans chaque pays africain, anticiper les crises et faire en sorte que les crises ne puissent pas naître. La vraie logique, la mienne, est c'est que dans chaque pays africain, comment devons-nous réfléchir comment les dirigeants peuvent réfléchir ou doivent réfléchir de sorte que les crises ne naissent pas. Parce que les crises qui naissent, avant qu'elles ne soient grandes, avant qu'elles ne débordent, pour que on demande pourquoi XWB n'est pas venu, mais pourquoi au départ, on n'a pas eu le réflexe d'étouffer cela. On n'a pas eu le temps de gérer ça en interne. On minimise souvent certaines crises où, pour des raisons politiques, on fait la sourde oreille et on crée des crises. Et quand elles débordent, on ne sait plus comment les gérer et les conséquences sont tellement immenses qu'on accuse soit des organisations sous-régionales ou internationales. Mais avant d'arriver à accuser ces organisations, pourquoi à notre niveau, en Afrique, on n'a pas cette hauteur, c'est-à-dire cette force de régler nos conflits.
Vraiment.
Moi, c'est comme ça que je vois le débat. Comment on peut pas? Parce qu'il y a des crises qui naissent. Même par rapport aux élections, tout le monde sait que si ceci n'est pas fait, ça risque de déboucher sur cela. Tout le monde sait que si, par exemple, par rapport aux résultats des élections, si vous êtes comporté ainsi, l'autre n'acceptera pas que sa victoire lui soit
arrachée.
Il va trouver d'autres formes. Vous savez que c'est une rébellion qui est en train de naître. Et par rapport, par exemple, on va dire non, nous, on ne nous a pas pris en charge, on est oublié. Il faut gérer cela au plus possible. On laisse les situations pourries et les gens prennent des armes contre leur propre pays et après, on regrette tout. Il faut arriver. Ça, c'est mon point de vue. Parce que quand on est sur le plateau, ce n'est pas pour venir plaire à X ou W. Non, c'est dit ce que l'homme pense. Et qui peut être dit et qui est supposé avoir été réfléchi avant d'être dit. Donc moi je dis qu'en Afrique, on a un problème très sérieux. On n'a pas cette capacité d'anticipation et de la maîtrise de nos petits foyers de conflits au départ. Au départ, si on les a maîtrisés, il y a des situations en Afrique, on a des mécanismes de résolution de nos conflits. Quand ça ne va pas, il faut activer les traditionnels, c'est-à-dire les chefferies traditionnelles, par exemple. Il faut activer peut-être les griots. Un exemple, je donne, banal. qui peuvent tout de suite servir d'intermédiaires, de jonctions pour régler, ou il faut peut-être activer les plus hautes autorités qui ont leur représentation un peu partout dans toutes les régions, dans chaque région, régler le problème en interne avant que ça ne prenne, ça ne déborde. Nous, on ne le fait pas.
D'accord.
On ne le fait pas. Et donc, si on ne le fait pas, il prend naissance un groupe. Pourquoi en Afrique, on peut penser que des Africains peuvent prendre des armes contre leurs propres frères? Des Africains peuvent prendre des armes contre leur propre pays, comme l'être contre leur propre État.
D'accord. En somme, il faudra anticiper ces genres de crises, comme vous le dites.
Bon,
mais la crise est
vous
déjà,
me permettez.
La crise est déjà là. Je vais terminer tout à l'heure.
Oui.
La crise est déjà là et il y a des milliers de morts et la guerre continue. On a vu déjà un cas similaire en Côte d'Ivoire où c'était une guerre entre deux figures emblématiques. Et cette guerre a été résolue en faisant appel à une intervention étrangère. Faut-il envisager une intervention étrangère au Soudan également?
Oui, mais il y a une petite observation à faire. Hein. Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu problème entre deux personnalités, non. Il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire.
Mais c'était deux personnalités.
C'est pas deux personnalités. Une rébellion, une frange du pays. Des citoyens du pays ont dit, nous on fait rébellion et on crée une rébellion. Une rébellion qui a duré plus de 10 ans, qui n'a pas été désarmée. Quand on ne désarme pas une rébellion, elle ne finira jamais.
Okay.
C'est cette rébellion qui n'a pas été désarmée, qui a conduit sa logique pour aller renverser un pouvoir.
Alors, les belligérants de ces deux crises étaient derrière deux figures. On voit un cas similaire au Soudan. Est-ce qu'il faudrait faire appel à une intervention étrangère comme cela a été acté comme moyen de résolution en Côte d'Ivoire?
Je suis tout à fait d'accord avec la pertinence et l'insistance de vous donner sur le sujet. C'est pourquoi j'ai dit on n'a pas de choix que de faire appel à l'extérieur. Parce qu'il fallait anticiper pour éviter de faire appel aux gens. Il faut anticiper de régler les conflits. Vous comprenez?
Oui.
Quand la situation est là, et elle sent, et vous savez que ceci, si ce n'est pas réglé, ça va aboutir à cela. Il faut passer au plus pressé. Maintenant, quand vous prenez le cas du Soudan, ça a débordé, on va faire comment? Mais s'il faut laisser continuer la situation pour encore aggraver le nombre de morts, ou augmenter le nombre de morts, ou aggraver la situation des populations? Non, il faut donc faire appel. Il faut solliciter d'autres forces, d'autres pays, d'autres médiateurs, d'autres bonnes volontés qui peuvent aider à ce que la situation se résolve. On ne peut pas laisser les gens mourir. Moi, je l'ai dit au départ, et la dernière fois, et je reviens là-dessus, quelle que soit la nature et la raison, la victime est africaine.
D'accord.
C'est vous me permettez...
Tout à fait, également. Oui, M. Tamara, vous pouvez aller.
Vous savez... Sur le sujet d'appel à l'extérieur pour la résolution des crises internes en Afrique est vraiment mal vu,
oui,
mal perçu par beaucoup des Africains. Je vous donne un exemple sur le cas de la Libye. C'était une intervention militaire pour la résolution. C'était dans le cadre de la responsabilité de protéger la population civile parce que Kadhafi disait qu'il était prêt vraiment à combattre tous les rebelles qui se rebellaient contre lui, contre son régime. Donc voilà, après... L'intervention militaire, certains disent de l'OTAN, mais en réalité, ça a été acté, décidé par les Nations Unies. Vous voyez que les Africains n'ont vraiment pas aimé, n'ont pas aimé en réalité. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre de cela. Sinon, en réalité, moi personnellement, je ne suis pas du tout contre l'intervention militaire pour la résolution des crises comme ça, qui est par exemple au Soudan. Parce que ça s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de protéger la population. La restauration de la démocratie et la protection des droits de l'homme, la protection des droits du peuple soudanais. Mais il suffit de le dire en Afrique pour qu'on te prend, pour qu'on t'insulte, quoi. Vous comprenez? Sinon, en réalité, me semble-t-il, c'est l'unique solution pour protéger la population soudanaise. Mais ça ne peut pas se dire. On est en Afrique. Certains ne vont pas loin. Pourtant, c'est la population qui est en train de mourir à cause de l'ego de deux individus,
oui,
qui se combattent, qui sont en conflit, pas pour même protéger la population, parce que le conflit s'est fait au prix de la vie de la population.
La population souffre, la population meurt. Mais ils sont en train de le faire juste pour le pouvoir et la richesse qui y découle. Donc, face à des situations pareilles, il le faut en réalité. Mais les dire en Afrique, c'est tout à fait un problème.
Imposer la paix par la force.
Imposer la paix par la force. Les dire en Afrique, c'est tout à fait un problème. En réalité, il n'y a pas autre alternative que ça. Pour des gens qui refusent d'écouter les gens, pour des gens qui refusent la médiation, pour des gens qui refusent de laisser sur le feu. Mais tu ne peux pas le dire. Pourtant, ils sont en train de tuer leur population. Quelle violation des droits de l'homme, les droits de la vie. Mais il suffit de les dire. Ah, ok, tu as un problème. Mais je dois quand même avoir le courage de le dire. Je ne peux pas le dire, moi.
D'accord. Et comme vous le dites, la population est en train de souffrir. Et sur le cas humanitaire, le rapport de l'organisation Amnesty International, publié en avril dernier, dénonce de graves violations du droit international humanitaire commis par les deux parties, surtout, et dont certaines constituent des crimes de guerre, notamment des violences sexuelles, y compris contre des filles et des femmes également. Oui. Et comment expliquer cela au XXIe siècle, dans une Afrique qui se dit berceau de l'humanité?
Et puis, c'est incroyable, quoi. Vous savez, mon frère Tchèna, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en réalité, généralement, ceux qui sont recrutés, les recrues dans les forces de milice, là, généralement, ce sont des gens, il faut voir tout simplement leur parcours pour comprendre que beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu de bonne éducation. Donc, des personnes aussi qui se trouvent dans ces forces comme ça et en temps de guerre, leur côté animalité s'active. Ils ne peuvent faire que du mal à la population civile. En réalité, ils ne savent même pas qu'ils doivent protéger cette population civile. Donc, rien ne m'étonne. Aussi, l'envie pour l'Africain de cet égo-là d'être au pouvoir par force est vraiment criminel. Un moment, un monsieur français parlait que l'Afrique n'étant pas entrée dans l'histoire, on l'a accusé de tout. On l'a insulté, Nicolas Sarkozy.
Oui.
On l'a insulté de tout. Moi, j'ai dit oui, il est entré, l'Afrique, nous sommes entrés dans l'histoire. Mais est-ce qu'en réalité, nous évoluons mentalement? Est-ce qu'en réalité, nous évoluons mentalement? Le fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en paix entre nous, Africains, jamais. Il faut qu'on s'entretienne pour le pouvoir éphémère. En réalité, nous sommes entrés dans l'histoire, mais nous n'évoluons pas mentalement.
D'accord.
Voilà.
D'accord, M. Touali. Et Tangara, lui, il parle de problèmes d'éducation. Et les idéaux africains de l'humanisme au Mali, vous entendez souvent les gens parler de Maya. Il y a Ubuntu dans d'autres régions de l'Afrique et d'autres concepts en rapport avec l'humanisme. Est-ce que l'idéal africain qui sacralise l'humain est-il en train de mourir?
Mais c'est mort il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui. On ne peut pas. C'est-à-dire, en fait, on a une histoire en Afrique qu'il faut repenser. On a connu des empires en Afrique.
Oui.
L'empereur, quand on prend quelque part, et ceux qui sont pris, est-ce qu'ils sont heureux qu'un empereur va envahir, annexer quelque part? Ceux qui sont annexés, est-ce qu'ils sont contents?
Non.
Non.
Voilà. Ceux qui ont été envahis.
Juste pour dire, il faut repenser l'Afrique. Ce qui est bon, comme nos valeurs morales, l'Africain, il a peur, il a horreur de voler.
Ah.
C'est ça l'Africain. Je parle de nos valeurs morales. L'Africain, dans n'importe quel village africain, si quelqu'un avait perdu quelque chose, on prend, on donne ça au responsable du village. Des années après, si le propriétaire revenait, il prenait sa chose. Dans les entrées de nos villages, on mettait des canaries pour que tout passant puisse boire. En Afrique, quand tu traverses le champ d'un frère ou un champ que tu as faim parce que tu es en train de faire un voyage, tu t'arrêtes, tu manges. Quand tu finis de manger, tu vas tracer autour de ton pied pour faire un signe, pour dire que c'est moi qui suis passé par là. Et la personne comprend tout de suite qu'un frère africain est passé. Donc, on a des valeurs. Ces valeurs-là, aujourd'hui, n'existent plus. En Afrique, on n'insultait pas quelqu'un publiquement, quelle que soit votre force, quelle que soit vos cornes, quelle que soit tout ce dont vous disposez. On ne se met pas debout pour insulter tout le monde, encore moins tout le village. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les Facebook, on insulte les gens père et mère et il n'y a rien. L'Africain doit repenser ses valeurs. Et vous faites bien de poser cette question, parce que c'est ce qui est même à l'origine des conflits, des malentendus. Or, en Afrique, quand il y avait un sujet conflictuel dans un village, c'est pas tout le monde qui traite le sujet. Tout le monde n'était pas associé à la réflexion. Les vieux, les sages, avaient leurs mécanismes, avaient leurs leviers sur lesquels ils s'appuyaient pour faire taire le conflit dans le village. Et hier, si ça a été ébruité, le lendemain, tout va bien, les enfants ne comprennent pas. Les jeunes du village ne comprennent pas. Certaines femmes ne comprennent pas. Mais le vieux, il est au courant. C'est plus tard, peut-être, il pourra le dire. Donc, on a ces valeurs qu'on a perdues. Et donc, si on perd les valeurs, c'est tout à fait évident que vous et moi, qui sommes aujourd'hui en train de débattre, et lui qui nous sert d'intermédiaire par rapport à l'orientation du débat, si demain nous avons un conflit, un malentendu entre nous deux, ton supposé supporter ou frère ou cousin, il s'assoit derrière son smartphone sur les réseaux sociaux, il va me dire, moi j'ai pissé dans mon lit et que je suis quelqu'un qui pisse matin, midi, soir. Et il va raconter toutes les bêtises sur ma vie privée. Alors qu'il aurait dû dire, c'est entre vous les frères. Parce que moi, dans ma conception du panafricanisme, il faut d'abord aimer l'Africain. Si tu n'aimes pas l'Africain, ton panafricanisme est un non-sens.
D'accord.
Ça, c'est mon point de vue.
D'accord, merci beaucoup.
Il faut d'abord aimer l'Africain.
Mais vous me permettez de répondre.
Un dernier mot sur le sujet.
Vous savez, M. Touali, vous avez parlé des valeurs, nos valeurs. Par exemple, s'il y a des problèmes comme ça dans nos villages, il y a des chefs du village qui sont là, il y a des traditionnalistes qui sont là pour résoudre ce problème. Donc, il y a tout un mécanisme pour la résolution de certains problèmes entre frères. Vous avez parlé. Vous pensez que ça n'existe plus. Oui, ça existe, mais avec, vous savez, l'évolution et l'avènement de la démocratie, avec la modernisation de nos États, nous avons rétabli autres valeurs, qui sont les droits positifs. En réalité, notre problème, il y a tout un mécanisme sur place, vraiment pour étouffer le problème entre nous. Le problème, c'est l'ego, les Africains. On n'aime pas se soumettre, ça le problème, l'état des droits, on ne respecte pas. Par exemple, tout le problème c'est pour le pouvoir, non? Même aujourd'hui, les Soudanais sont en train de s'entretuer, c'est pour le pouvoir, non? Alors qu'il y a bien une règle bien établie qui prévoit comment arriver au pouvoir. Mais on ne la respecte pas, mais la règle existe toujours. Le combat même qui a été fait pour l'avènement de la démocratie au Soudan a été détourné par des individus. Aujourd'hui, le peuple lui-même se cherche. Donc, c'est tout simplement que nous refusons de nous soumettre. À la fois, nous ne respectons pas les valeurs traditionnelles, nos valeurs sociétales. En plus, nous ne respectons pas les normes que nous-mêmes nous avons établies à notre propre ère, qui sont les droits positifs, c'est-à-dire la constitution, les lois et autres.
Il faut respecter les valeurs sociétales et respecter le droit constitutionnel. C'est sur ces mots que nous passons à la thématique suivante. Dangote inquiet face au pétrole russe. Quelle protection pour les industries pétrolières locales? Le milliardaire nigérien Aliko Dangote a exprimé ses inquiétudes face à l'arrivée massive de produits pétroliers russes à des prix cassés. Nous regardons ce reportage pour nous renseigner davantage.
Face à l'arrivée massive de produits pétroliers russes à prix cassé sur les marchés africains. Selon lui, cette situation menace l'émergence de l'industrie locale de raffinage. Sa méga raffinerie à Lagos, la plus grande d'Afrique avec une capacité de 650 000 barils par jour, peine à s'approvisionner en brut nigérian, tandis que des carburants bon marché, souvent toxiques et non conformes aux normes occidentales, inondent le continent. Dangote attribue ce phénomène aux sanctions occidentales contre la Russie qui poussent Moscou à écouler ses produits à bas prix en Afrique. Il s'inquiète particulièrement du rôle du marché pétrolier flottant de Lomé au large du Togo, devenu un hub majeur d'importation, hébergeant plus de 2 millions de barils. Cette concurrence nuit aux efforts de raffinage africains, alors que seulement 40% du pétrole brut africain est raffiné localement et que le continent importe encore plus de 120 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés par an. Malgré un début prometteur, avec 1 million de tonnes d'essence exportées depuis juin, Dangote dénonce la concurrence déloyale des négociants internationaux, profitant des failles réglementaires et de normes incohérentes sur le continent. Il appelle les États africains à adopter des mesures protectrices similaires à celles de l'Occident, comme les taxes douanières et les plafonds d'émissions. Toutefois, l'Afrique reste un marché secondaire pour le diesel russe, dont les exportations vers le continent ont récemment baissé de 30%.
Alors, Dangote inquiet face au pétrole russe. Monsieur Monoko, vous venez tout à l'heure de regarder le reportage. Et pourquoi Aliko Dangote considère ces importations de pétrole russe comme une menace pour les raffineries locales?
Bien. Je ne suis pas trop outillé en matière d'économie, mais si on fait une analyse, on a toujours demandé ici que nous, Africains, nous devions nous prendre en charge. Faire en sorte que les Africains osent à créer des emplois, que des Africains innovent et soient compétitifs. Mais si en même temps, les Africains vont être en face d'une concurrence, quelle que soit son origine, mais qui est déloyale, ça ne rend pas service, pas à Dangote, lui qu'il faut voir. Mais il faut voir l'Africain qui a fait quelque chose de grand. Il fait partie des rares Africains qui a osé arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Il est donc bien placé pour savoir si oui, il y a une menace ou pas. Et c'est lui qui peut le dire. Il est du domaine. Et il dit qu'il a des hydrocarbures qui sont bon marché, déversés en Afrique, et qui lui fait mal, et qui l'inquiète, et qui alerte les chefs d'État africains de prendre des mesures de sorte que les produits africains soient protégés. Que ce soit au niveau du pétrole, c'est-à-dire des hydrocarbures, que ce soit au niveau de l'or, ou n'importe quel produit, que ce soit cacao, café, mais il y a bien nécessité de protéger les produits africains et les producteurs africains pour qu'ils ne soient pas menacés sur leur terrain par une concurrence déloyale. Maintenant, il a parlé de la Russie, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mettons-nous dans la tête que des États, quels qu'ils soient, n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. D'accord. Et donc, s'il y a besoin de trouver un marché quelque part, les États déploieront tous les moyens pour le faire. Cette triste réalité, c'est aussi observé dans les zones minières où les Chinois détruisent tout, ne respectent rien,
aucune règle,
et qui détruisent non seulement la nature de façon globale, les eaux sont désormais contaminées, le sol est désormais mal mis au point, et cela existe. Il faut aussi que les autorités africaines, les dirigeants africains prennent la chose en main pour dire que nous avons ces richesses. Voilà comment il faut les protéger. Tout partenaire qui venait ou qui viendrait, voilà comment il doit se comporter. Il faut lui définir un cahier des charges, il faut des protocoles, il faut quand même des mesures. Alors, d'un côté, pleure. Peut-être qu'il a pleuré, il faut prendre son cri comme quelque chose qui a certainement longtemps existé. Que ça provienne de la Russie, que ça provienne de la France, que ça... C'est toujours dit que l'Afrique a toujours été menacée dans ce sens. Lui, il a eu aujourd'hui le courage parce qu'il a atteint un certain niveau qui lui permet de comprendre.
D'accord.
Et dis donc qu'il y a une menace.
D'accord.
Cette menace dont il parle, on peut donc dire qu'elle a toujours existé et que lui, il est aujourd'hui bien placé pour tirer sur la sonnette.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Monoko. Alors Monsieur Tangara, comment expliquer en ce moment l'arrivée massive de produits pétroliers russes sur le continent?
Bon, il faut le comprendre tout simplement que parce que les produits russes qui devraient être envoyés, vendus sur les territoires européens n'est pas vendable là-bas également. L'Europe a refusé tous les produits russes. Donc, il n'y a pas autre moyen que d'essayer de le déverser sur notre continent et en contrebande, en violation de toutes les règles bien établies sur le continent. C'est justement ça. Donc, il y a un problème. En réalité, partout dans le monde, nous chérissons la vie humaine, car la vente de ces produits pétroliers sur le continent, c'est
moyennant quelque chose à un prix préférentiel pour certains Africains, mais aussi les Russes vont avoir de l'argent et cet argent pourra alimenter encore la guerre. Pourtant, là-bas où il y a la guerre, c'est la vie humaine qui est en train de se détruire et on n'en veut pas. Donc, comme M. Monoko a bien dit, il faut vraiment que...
Donc vous faites le lien entre la recherche de profit en Afrique et la guerre en Ukraine.
Mais bien sûr, c'est ça. En réalité, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits, comme M. Dangote a dit, toxiques et non conformes même aux normes occidentales sur notre continent. Ils sont en train de le vendre à moins cher chez nous, ici. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les vendre en Europe. Sinon, en réalité, c'est l'Europe leur premier client pour commercialiser leurs produits. Donc, ils n'ont pas de preneur. Donc, ils n'ont que l'Afrique pour venir déverser sur notre économie en contrebande, en violation de toutes les règles établies chez nous. Donc, voilà. Comme Monoko a dit, il faut vraiment une exigence de la prise des mesures nécessaires pour vraiment arrêter ces fléaux-là. Surtout que ça ne se fait pas dans le respect des normes. Donc, ça ne peut pas être encouragé. Surtout également que ça consiste à alimenter la guerre, une partie de ce monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout utile pour l'humanité. Elle n'est pas encouragée du tout.
Donc, selon vous, on doit bannir ce pétrole. Mais en dehors du côté sanitaire, et si on regarde au niveau du profit, et qu'est-ce que cette situation révèle sur la dépendance du continent face aux produits pétroliers étrangers? Qu'est-ce que nos autorités aussi doivent faire pour protéger nos industries locales? Parce que les produits pétroliers russes qui entrent en Afrique sont vendus moins cher par rapport aux produits de Dangote et qui sont raffinés par l'entreprise de Dangote. Ça crée un déséquilibre. Est-ce que l'industrie africaine peut se développer dans ce contexte?
Non, c'est vraiment beaucoup plus difficile que notre industrie en Afrique si se développe dans cette condition. Le fait qu'au moment que nous sommes en train de produire des produits bruts sur place, et qu'il y a d'autres produits qui viennent de l'extérieur beaucoup plus moins chers que ce que nous produisons. En réalité, ces produits viennent tout simplement pour le commerce chez nous, alors que les producteurs de chez nous, non seulement ils produisent, mais ils emploient. Donc, c'est un coup dur pour nous-mêmes, quoi. C'est un coup dur pour nous-mêmes. Deuxième élément, c'est que les produits arrivant chez nous, qui viennent chez nous,
oui,
les produits russes, Dangote a eu à dire que c'est des produits toxiques. Donc, toxiques, pas bon, pas aussi meilleur que ça, mais qui sont en train d'être commerciés. Donc, ce qu'il faut en réalité faire, c'est pour protéger notre économie, pour protéger l'intérêt de l'Afrique, c'est la prise des mesures nécessaires pour vraiment régulariser ces secteurs. Voilà.
D'accord. On a vu des exemples aux États-Unis, par exemple, ils ont imposé des droits de douane de 25% et sur l'acier et 30% sur les panneaux solaires pour protéger les producteurs locaux de panneaux et de l'acier également. Mmh. Et aussi chez les Britanniques et chez les Allemands, le Royaume-Uni, vous le saviez déjà, était une puissance industrielle, la première puissance industrielle de l'Afrique au 19e siècle. Les Allemands, pour développer leur industrie, il a fallu se protéger contre les produits venant chez les Anglais. Est-ce que l'Afrique doit, les États africains doivent collectivement suivre des exemples comme ça?
Oui, mais vous savez, il y a des structures qui régulent ces genres de transactions, de oui, commercialisation. Il y a des structures qui existent sur le continent, qui régulent tout ça. Mais c'est peut-être que l'efficacité. Est-ce que
qui pose problème.
Voilà, qui pose problème. Sinon, je ne crois pas que des règles manquent. Je ne crois pas que des exigences manquent. Mais ça amène un peu l'idée de ce qu'on appelle la corruption aussi. Mm. C'est ça la réalité. Mm. Je peux donner un exemple banal. Imaginez un instant que aujourd'hui le Mali, l'un des grands pays producteurs du coton, décide de fabriquer des pailles de bonne qualité, tout et tout. Mais vous verrez demain les mêmes motifs en contrefaçon, fait par les Chinois ou d'autres structures pour venir inonder le marché. Oui. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Je donne ce petit exemple. Il y en a plein. Les chaussures d'aujourd'hui, vous portez la chaussure, ça ne fait pas 2-3 jours, ça se gâte. Mais quand c'est bien, ça brille bien, tu penses que c'est une bonne paire de chaussures que tu as. Tu vas même en bas, le truc quitte après. Tout est contrefaçon. Il faut régler cela. Et ça, le problème fondamental, c'est ceux qui ont en charge de veiller sur l'applicabilité, le respect de ces règles. Ça ne se fait pas. Prenons, laissons même l'extérieur à un grand niveau. Venons tout simplement ici en Afrique, entre nous ici, les consommateurs. On nous fait consommer n'importe quoi. On mange n'importe quoi dans les marmites.
Tout entre.
Et puis ceux qui sont en charge de veiller sur, qui pour défendre les consommateurs, qui veillent sur les normes de ce qu'on nous vend sur le marché, ces gens-là, ils ne le font pas. Carbine, c'est-à-dire ce qu'on appelle, comment on appelle, bicarbonate de sodium, qu'on appelle carbine communément, ça se retrouve partout. Vous prenez tout de suite une mangue, c'est déjà foutu, ils ont mis le truc dessus. Et on nous donne, on mange. Qu'est-ce que ça peut entraîner dans notre ventre? On ne sait pas. On vous donne tout de suite papaye, c'est rempli de ce produit-là. Même, puis, d'autres prennent même du truc formol, n'importe quoi, pour mettre ça sur les poissons, pour ne pas que les poissons pourrissent, et on nous les vend, on les consomme. Qui gère tout ça? Qui s'occupe de ça? Qui lutte pour l'application? Qui est chargé pour dire non, ceci ne doit pas rentrer en Afrique? Qui est chargé de cela? C'est là la vraie question. D'accord. Ce n'est pas que... Je prends un exemple banal encore une fois de plus. On dit tel produit est rentré et c'est peut-être des engrais frélatés ou engrais de mauvaise qualité qui rentrent dans un pays et qui entrent les mains des paysans. On s'interroge, mais comment ça a pu traverser de l'autre côté jusqu'à arriver sur place?
D'accord. Qui était chargé? Il faut plus de protection douanière.
Que ce soit douane ou pas, toutes les structures qui se sont données pour mission de veiller
la circulation des produits.
Des produits, la régulation des produits, le contrôle des produits, la certification des produits, ces structures-là doivent être véritablement opérationnelles et ne pas donner de faux rapports parce qu'ils ne font même pas le travail et les rapports qu'ils donnent, dans ces rapports, on voit tout est bien, on est dans les normes. Quand vous en parlez, on dit non, nous on est dans les normes, il n'y a pas de soucis. Et après, les gens découvrent que tel problème est venu de ceci, tel truc est venu de cela.
Vraiment. D'accord, il faut renforcer le contrôle douanier. Vous avez parlé de règles en Afrique. Il n'y a pas de règles qui manquent, comme vous l'avez si bien dit. Et en Afrique de l'Ouest, il y a le projet de tarification extérieure, tel que CDAO, qui a été mis en place. Mais malheureusement, force est de constater que dans le cas surtout des produits pétroliers, il y a le Togo et le Bénin qui ne respectent pas souvent ces règles. Ah, voilà. Et pourquoi l'éducation est si difficile?
Bon, c'est ça. Le fait qu'un État ou des États ne respectent pas les normes établies, c'est toujours ça le problème. Pourtant, déjà un État qui se comporte en voyou, ne respecte pas les normes régionales, c'est le droit communautaire, hein,
oui.
Voilà, qui ne respecte pas les normes régionales et qui font
ça
passer...
Ça nous renvoie justement à ce que vous avez dit tout à l'heure.
Justement, et qui font passer toutes sortes de produits irréguliers sur le continent. Donc, c'est un problème, en réalité. C'est tout simplement le jument-foutisme, quoi. On ne respecte pas les normes. Pourtant, il faut respecter les... Les normes sont établies, c'est pour qu'on les respecte. Parce qu'il y a de l'impact. Voilà.
Alors, nous passons à notre rubrique « C'est encore ça ». Un regard panoramique sur ce qui continue de façonner l'actualité en Afrique. Celle qui dit « Où va l'Afrique ?», ce qui l'intrigue, qui l'inquiète, mais aussi celle qui dit... celle qui la projette vers l'avenir. Alors, c'est sur ça que nous passons à la rubrique « C'est encore ça ».
Cette semaine en Afrique, le continent a une fois de plus été traversé par trois faits marquants. Des tensions géopolitiques persistantes, des enjeux économiques cruciaux et des défis humanitaires de plus en plus pressants. D'un côté, les foyers de crise et les tentatives de paix s'entremêlent. En République démocratique du Congo, un accord de principe a été signé à Doha entre le gouvernement et le M23, prévoyant un cessez-le-feu et le respect de la souveraineté nationale. Mais dans les collines du Nord Kivu, les combats reprennent aussitôt entre les rebelles et les milices Wazalendo, rappelant combien la paix reste fragile. À l'Ouest, le Mali reste silencieux face à la main tendue de l'Algérie qui propose de reprendre sa médiation avec les groupes du Nord un an après la rupture des accords d'Alger. En Somalie, la situation sécuritaire se dégrade. Les djihadistes Chebab regagnent du terrain face à une armée nationale affaiblie au moment même où se préparent les premières élections au suffrage universel en 2026. Sur le plan politique, Le Cameroun s'engage dans une présidentielle inédite avec 80 candidatures enregistrées, tandis que le président Paul Biya, 92 ans, entend briguer un 8e mandat. Dans un second temps, les enjeux économiques ont dominé plusieurs actualités stratégiques. Au Nigeria, la croissance atteint 3,13% au premier trimestre, mais l'inflation reste galopante et les réformes de Bola Tinubu peinent à convaincre. C'est dans ce contexte que le milliardaire Aliko Dangote tire la sonnette d'alarme. Selon lui, l'afflux de carburant russe à bas prix menace l'essor du raffinage africain, appelant à des protections douanières et une régulation continentale. La Zambie, de son côté, accélère son indépendance énergétique en signant un accord avec la Chine pour construire une méga raffinerie capable de traiter 60 000 barriques par jour. Plus au nord, le Maroc a investi 4,5 milliards de dollars pour moderniser ses aéroports, ambitionnant de doubler sa capacité d'accueil avant la Coupe du Monde 2030. Quant au Sénégal, après la révélation d'un endettement supérieur à 100% du PIB, le pays reçoit l'appui du FMI pour poursuivre ses réformes, un signal fort à la communauté internationale. Enfin, la situation humanitaire reste critique dans plusieurs régions du continent. Au Soudan, l'épidémie de choléra a fait plus de 2300 morts en un an, avec 91 000 cas recensés, notamment dans le Darfour, déjà ravagé par la guerre. Face à cette urgence, l'ONU tire la sonnette d'alarme alors que plus de 70% des structures de santé sont inopérantes. Pendant ce temps, l'Égypte organise le retour volontaire de réfugiés soudanais vers Khartoum, signe d'un reflux humanitaire en cours. Et au Niger, c'est une affaire plus insolite qui suscite l'émoi. La vente controversée d'une météorite martienne de 24 kg à New York, suspectée d'avoir été exportée illégalement, soulève des questions de souveraineté scientifique et de trafic transfrontalier. En résumé, cette semaine en Afrique a illustré une fois de plus l'interconnexion entre instabilité politique, ambition économique et crise sociale. Un équilibre fragile, mais porteur d'enseignements et de défis à relever pour les décideurs du continent.
Encore une fois, le commentaire de Habibatou Diop, une actualité en Afrique marquée par des tensions géopolitiques, des efforts économiques et aussi une situation humanitaire critique de part et d'autre sur le continent. Et c'est sur ces mots que prend fin ce numéro de cette semaine en Afrique. Je suis ravi de l'avoir présenté. Nous étions avec M. Monoko Toali. Il est journaliste et expert en communication. Et également M. Tangara, qui est un juriste spécialisé en droit humanitaire international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.